La pluie aux pieds légers par André Cortiz. Encore une histoire d'Espagne. C'est qu'il en est inépuisable, ce pays d'or et de sang. Une histoire vieille de 4 ou 5 ans. Entre tant d'autres, elle dormait dans son coin. Mais la grande pluie qui tombe depuis ce matin l'a réveillée avec son bruit de tambour et de sanglots. Qu'il pleuvait ce soir-là sur la Sierra Andalouse. De grandes épées brillantes s'entrecroisaient devant les phares. Des pointes aiguës de lances transperçaient la route. Au-delà de cet éblouissement qui brouillait le regard, la nuit opaque se resserrait comme un mur contre lequel la voiture, si lentement qu'elle avança, allait sûrement s'écraser. Une espèce de vertige faisait tourner la tête. Rouler devenait impossible. Il fallait s'arrêter. Ce fut dans une ferme où deux vieux se chauffaient devant un petit feu d'épines, allumé à même le sol carrelé sous l'immense cheminée. Deux vieux. Peut-être, après tout, n'était-il pas tellement vieux, mais ravagé, consumé par une peine qui tout de suite se voyait dans leurs yeux. Nous parlâmes de cette guerre, naturellement de leur affreuse guerre civile qui venait de finir. « Pour nous, soupira la femme, elle n'aura plus de faim. »« Plus de faim, approuva l'homme. « Écoute, dit-elle après un instant, j'entends bien, murmura-t-il. Qu'avait-il à entendre ? La pluie précipitait ses piétinements sourds. Les feuilles mortes s'arrachaient et traînaient avec des froissements de jupes balancées, de longues jupes de soie élargies de volant. « Elle est là ! Elle est là ! Ria mia, ma fille !» La vieille joignit les mains. L'homme marmottait quelque chose. Ils souriaient tous les deux. Je n'eus pas à les interroger longtemps. Parler les soulageait, et ce soulagement-là ne leur était qu'assez rarement accordé. Leur maison isolée n'avait pas de voisins. Et l'histoire, ils la connaissaient, n'est-ce pas ? Aussi bien l'un que l'autre. Pour savoir qu'ils ne cessaient d'y penser, il leur suffisait de se regarder avec ses yeux navrés ou cet étrange sourire. Notre fille. Nous n'avions que celle-là. Et belle comme la Sainte Vierge. Quand, toute petite encore, elle nous dit qu'elle voulait apprendre la danse à l'école de Séville. Nous aurions préféré autre chose, institutrice par exemple. Mais nos danseuses restent sérieuses si elles le veulent bien. Et j'ai une sœur à Séville. Jamais la petite n'est allée seule à l'école. Ma sœur restait là tout le temps de la leçon avec les mères, les grands-mères. Le maestro Otero disait « Pastora est un de mes espoirs, elle dansera à Madrid, devant le roi. » Et puis cette république est arrivée. Il n'y avait plus de fête, les gens se haïssaient. En attendant que tout aille mieux, la petite a quitté Séville. Elle est rentrée chez nous. Et alors, pour elle, l'amour est venu. J'entends leurs voix alternées, sourdes et brusquement traversées de grands éclats d'orgueil ou de désespoir. Mais dégageons le souvenir de ce dialogue haché. Retrouvons, au-delà des mots pauvres et simples, tout ce qu'ils évoquaient. Tâchons de le retrouver dans l'odeur de la pluie, dans son bruit bondissant et qui pleure. L'amour était venu pour la petite danseuse. Il avait pris la forme d'un garçon riche et beau dont les oliviers innombrables rapportaient chaque année des doux roses par milliers. « Certes, nous étions fiers, avoua le père, qu'elle fût recherchée par un tel homme, mais elle, qui eut tant d'argent, elle n'y prenait même pas garde. Elle l'aimait comme savent aimer les filles de chez nous. Elle l'eût suivi sur les routes, misérable et tendant la main, si le ciel eût voulu qu'il ne fût rien qu'un pauvre. » Il n'était bien entendu question que de mariage. L'amoureux, tous les soirs, arrivait à cheval de son hacienda. Il s'approchait de la grille derrière laquelle Pastora, comme un bel oiseau en cage, l'attendait. La chambre basse demeurait obscure, mais il y avait le clair de lune. Et puis, les rudes barreaux rouillés de ces grilles andalouses ne sont pas très rapprochées. Si bien qu'elle garde une fille, les mains peuvent se rejoindre, les lèvres aussi. Pendant ce temps, les parents de la cuisine parlaient discrètement et le sommeil venu gagnait leur lit. Une chanson les réveillait plus tard, beaucoup plus tard. Il y avait des spilles de ti. De tu casa y tu ventana. Je prends congé de toi, de ta maison, de ta fenêtre. La voix, pleine, grave et belle, s'éloignait lentement. Pastora ne montait se coucher que quand, depuis bien des minutes, on avait cessé de l'entendre. Comment s'appelait-il déjà ce novio de légende ? José ou Magnolito ? Je ne me rappelle plus. Mettons José, c'est plus bref. L'autre, c'était Anton. Car il y avait un autre. Une belle fille et qui le dimanche fait je ne sais combien de lieues en croupe derrière son père pour s'en aller danser sur une place de village et qui console ainsi les gens de tout ce qui se prépare, de tout ce qui commence à se passer, qui les fait délirer et trépigner d'un enthousiasme plus enivrant que le vin et mieux chargé d'oubli, ne peut naturellement pas être aimé que d'un seul. Ils étaient 5 ou 6. Hombre, bien davantage. Peu importe. Aucun, devant ce José si bon mais qui avait l'œil dur quand il le fallait, n'osait lever les yeux. Le seul redoutable était cet Anton des Casares y Mosca, un lieutenant de 22 ans, de moins bonne famille qu'il ne s'en vantait, hardi comme un muletier, plus tenace que la gale et n'ayant peur de rien, pas même de mentir. Ses sentiments pour Pastora, il sut les cacher si bien que la première fois qu'il vint à la ferme sous prétexte de négocier un achat de fourrage, il était dans la cavalerie, il ne s'informa même pas de la jeune fille. Revenant la semaine suivante et la trouvant près de son père, il ne fit que s'incliner respectueusement devant elle. Pas une allusion à ce bail du jour des rameaux, à cette danse où ses applaudissements, ses cris, son délire étaient les plus bruyants. Par la suite, il se rattrapa bien. Après le fourrage, il négocia avec le père de Pastora pour les feuilles de maïs destinées aux litières, et ensuite pour je ne sais plus quoi. Et puis, pour rien du tout. Le pli était pris. Il arrivait, pas le soir, naturellement. Le soir est réservé aux amoureux officiels, mais dans l'après-midi. Il attachait son cheval à ces mêmes barreaux que serraient un peu plus tard les mains de José et de Pastora, qui en deviendrait brûlant. La jeune fille commença par être sans défiance. Mais une nuit, longtemps après le départ de son fiancé, une autre chanson monta sous sa fenêtre. Elle crut José tourmentée par l'amour au point de ne pouvoir s'endormir et se pencha pitoyable. Or, l'homme qu'elle reconnut dans le clair de lune, sur un sombre cheval qui n'était pas l'arabe à la longue queue blanche, dont la tête amicale cherchait son épaule, portait l'uniforme de la garde civile. Aussitôt elle referma le volet. Mais la chanson qui détaillait avec une convoitise ardente et désespérée toutes les grâces de son corps et de son visage, la faisait, dans l'ombre de sa petite chambre, rougir de honte. « Par pitié, » dit-elle à Anton quand elle le revit. « Par pitié pour qui donc ? » demanda-t-il insolemment. « Pour vous-même, José vous tuera. » Le lieutenant ricana. « La nuit est à tout le monde, et les routes, et les champs, et le droit de chanter. Sans doute, mais une femme comme moi n'est qu'à un seul. C'est justement de ce jour, » dit la mère. Elle cessa de vivre. Mon mari, vous le voyez avec ses petites épaules. S'il s'était mêlé de la chose, le lieutenant l'eût bien vite envoyé promener. Et puis enfin, ça n'est pas l'affaire des parents, du moment bien entendu que la fille a l'intention de rester sage. Notre Pastora d'ailleurs nous suppliait de paraître tout ignoré. Une dispute, un scandale, fussent arrivés peut-être aux oreilles de José. Elle se défendait toute seule par le dédain, le mépris. Quand le lieutenant, s'obstinant à nous visiter, tournait autour d'elle, elle lui disait de telles choses que n'importe quel autre se fût découragé. Et quand il revenait la nuit, rondard sous sa fenêtre, personne ne bougeait dans la maison. C'est pour des morts qu'il chantait. Mais il n'est pas de prudence qui tienne devant le feu dévorant. Si sourdement qu'il couve, il éclate un beau jour. L'amour d'Anton pour Pastora finit par être connu de quelques-uns, puis de tous. Et qui sait, si ce n'est pas lui-même, avec de petits rires pleins de sous-entendus, qui se vanta de languir, de se dessécher, pour la plus belle fille de la région. Une fois sur cette même place, où il arriva à Pastora de danser le dimanche, pour le plaisir et le soulagement des pauvres gens, les deux hommes se trouvèrent face à face. « Il m'est venu aux oreilles que tu nommes ma fiancée quand vous êtes entre hommes un peu trop souvent, » dit José. Le lieutenant le toisa. Il n'est pas de femme que je n'ai le droit de nommer. Si, celle-là, dit José. Il tourna bride et jeta par-dessus son épaule. Sache ne pas l'oublier. Des gens avaient entendu et riaient. Ils entendirent aussi Antoine grommeler. Non, je n'oublierai pas. Ils cessèrent de rire, parce que le visage du jeune homme était à faire peur, déclarèrent-ils, plus blanc, plus tourmenté de plis, de rides subites, qu'un morceau de papier qu'on a froissé dans son poing. À partir de ce moment, chaque fois qu'il vint à la ferme, Pastora, qui avait reçu les ordres de son fiancé, demeura invisible. Le lieutenant ne parut pas s'en inquiéter, ne demanda même pas des nouvelles de la jeune fille. Mais plusieurs fois par semaine, avec l'insolence et la sûreté d'un homme qui affirme ses droits, il revenait donner la sérénade, en pleine nuit, et même aux premières heures du matin, quand José depuis longtemps était retourné chez lui. Il avait une guitare pendue à sa selle, et dont il jouait parfaitement. Par ces nuits pures de printemps, la voix et la musique s'en allaient très loin, et dans les autres fermes perchées à la pointe des mamelons et entourées de murs blancs comme de petites forteresses. Des jeunes filles ouvraient leurs fenêtres, écoutaient, rêvaient peut-être, mais ne se gênaient pas le lendemain pour bavarder. José, bien entendu, fut promptement averti. Il gronda Pastora de ne lui avoir rien dit. « Qu'est-ce que tu t'imaginais donc empêcher ? » demanda-t-il. La nuit suivante, il repartit comme d'habitude et chanta en s'éloignant sa chanson d'adieu. Seulement 2 heures plus tard, quand Anton, face au volet fermé de la chambre de Pastora, commença de gratter sa guitare, la mélodie fut interrompue par le bruit d'une chute et par un cri de rage. Caché derrière le tronc d'un gros eucalyptus, José avait surgi et, en poignant l'autre par un pied, l'avait fait basculer de son cheval. Ils se battirent furieusement et José fut le plus fort. Par le collet de son uniforme déchiré, il traîna le lieutenant étourdi, anéanti, jusqu'à lui faire toucher le mur de la maison. « Ouvre, Pastora » cria-t-il, et quand la jeune fille eut obéi, elle entendit le sermon que faisait Anton, les dents encore claquantes de tous les coups reçus. Il jurait, maintenu et secoué par cette poigne, il jurait par la Vierge et les saints et sous peine d'accepter la damnation éternelle, de ne jamais plus revenir au départ ici et de ne s'adresser désormais à Pastora ni en parole ni en musique. « J'y veillerai d'ailleurs, » déclara José en le laissant aller. De fait, il disparut, sans doute en quelque hôpital, pensant ses meurtrissures. Pastora, peu à peu, cessa de trembler. On avait arrêté la date du mariage au 4e samedi qui suit la fête de Pâques. Une nuit. Nuit maudite, qu'avait fait de mal notre enfant pour mériter de la connaître, rien. Cette nuit-là, derrière sa grille, Pastora attendit vainement l'habituelle et chère visite. Elle monta en pleurant réveiller ses parents. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Mais rien, lui disait son père. Une fièvre, une entorse. » Dès l'aube, le bonhomme enfourchait sa mule. Il revint, consterné. À l'hacienda, tout le monde se désespérait. José, parti pour aller voir sa novia, l'heure habituelle, n'était pas rentré. Au matin, en ouvrant les portes, les serviteurs avaient vu le cheval arabe qui, revenu seul, broutait l'herbe de la cour. « C'est Anton qui l'a tué !» criait ma pauvre petite, et nous le croyons tous. La police fut avertie, mais Anton, son ordonnance du moins l'affirma, n'avait cette nuit-là pas bougé de chez lui. D'ailleurs, il souffrait d'une grosse fièvre, que constata le médecin. On continua bien de chercher de tous les côtés, mais les choses commençaient à aller tellement mal qu'en la police elle-même, on n'avait plus confiance. Droite, gauche, rouge, nationaux, les gens se jetaient ces mots à la tête comme des pierres. On avait peur les uns des autres, on se cachait. Nous n'osions plus bouger. Des bandes passaient, qui pillaient tout, assassinaient, mettaient le feu. Pastora, elle, n'avait pas peur. Le goût de son chagrin avait pour elle plus de force que le goût de vivre. Quand il fallait se barricader, elle restait l'œil collé au joint des volets. S'il venait à passer. Son idée, l'idée qui l'empêchait de mourir de désespoir, c'est que José avait dû, pour des raisons de politique, rejoindre très secrètement quelques groupes dont il faisait partie. Maintenant qu'il n'y avait plus de mystère, qu'on se battait, il allait reparaître. Hélas, hélas, pauvre de nous, et d'elle, et de son espérance. Figurez-vous, il y a un vieux couvent, pas bien loin de chez nous. Un couvent abandonné dont l'église n'est plus qu'à moitié recouverte, dont le cloître s'effondre. Les dalles furent soulevées avec des leviers, et l'autel démoli parce que juste au-dessous se trouvait le charnier des anciens moines dont les ossements mis à l'air furent répandus par brassées. Terrifiés, les campagnards n'osèrent de 48 heures risquer un pied dehors. Pastora fut plus brave. Renseignée comme les autres par des gardiens de chèvres, elle résolut d'aller dire une prière sur tous ces morts profanés. Ses parents n'osèrent pas lui parler de prudence. Depuis la disparition de José, il y avait comme un mur qui la séparait de tous et derrière lequel elle n'en faisait qu'à sa tête. La créature que le fermier et sa femme virent accourir vers eux une heure plus tard ne ressemblait plus à leur élégante et digne Pastora. Les cheveux répandus, les mains en sang, elle avait comme du sang aussi dans le regard. Haletante, elle commença par s'abattre à leurs pieds. Quand elle revint à elle, ils crurent qu'elle était folle. Elle criait « Mon José !» Elle criait « Assassin !» Et elle ne cessait de tourner et de retourner entre ses doigts quelque chose. quelque chose qui était un bouton d'uniforme. « Où as-tu trouvé cela ?» demanda doucement son père. « Dans la main de José. » Elle défaillit de nouveau. C'est vers le soir seulement qu'elle put raconter. Tandis qu'elle priait, agenouillée dans l'église parmi tous ses tibias, ses crânes, ses squelettes séculaires et rompus, une main aux doigts repliés avait fixé son regard. Une main sur laquelle se desséchait encore un peu de chair. À la regarder mieux, on distinguait autour du poignet ce qu'eût dû être la manchette d'une chemise de toile bleue. Roidie d'horreur, la jeune fille s'est élevée. Elle avait le courage autour de cette main d'écarter les débris craquelants et poussiéreux. Le bras qu'elle dégagea portait encore les lambeaux d'une veste garnie de cuir qu'elle connaissait bien. Elle reconnut aussi, sur le crâne dépouillé, des touffes de cheveux noirs et l'épingle d'or piquée dans les lambeaux d'une cravate. L'horreur, l'odeur, elle n'en sentit rien. Elle continuait de chercher et de fouiller comme une bête. Il y avait des taches noires sur le cuir de la veste, au beau milieu du dos. « Du sang, on l'a tué !» Vainement, elle tenta d'écarter les doigts refermés. Mais son petit doigt, elle, glissant dans cette espèce de tuyau qu'il formait, en fit jaillir quelque chose de rond et de noirâtre. Un bouton. Elle le frotta sur sa jupe et le cuivre brilla. Les insignes apparurent. Alors, elle comprit tout. Anton, dans la nuit, se jetant sur José, l'avait désarçonné comme il le fut lui-même et frappé, mais pas avec le poing, lui, avec son couteau. La mort, malgré tout, ne dut pas être subite. Dans un sursaut, la victime s'était cramponnée au meurtrier. Elle avait arraché ce bouton d'uniforme. Tout ceci se passait non loin du vieux couvent qui se trouve sur la route chaque nuit suivi par José. Que faire maintenant du corps? Anton l'avait peut-être chargé sur le cheval, puis, le traînant, après avoir chassé l'animal, avait pénétré dans le cloître par quelques brèches du mur. Les pierres derrière l'autel ne tenaient guère. Achevé de les déceler, jeter le mort au charnier où nul ne s'aviserait d'aller le rechercher, tout remettre en place tant bien que mal. Ah, la royale idée, dut se dire l'assassin. Maintenant, Pastora ne s'inquiétait plus de ceux qui passaient sur la route. Ce qu'elle épiait n'était qu'en elle. Trois jours de cris, de sanglots, l'avaient vidée, non pas de son chagrin, de ce qui permettait de le manifester. Elle ne pleurait plus, elle parlait d'une voix douce. Et il ne faut pas croire qu'elle passa ses journées inertes et bonnes à rien, non. Elle aidait sa mère. On eut la stupeur un jour de l'entendre rire et dire un autre jour « J'ai dû me tromper, ce n'était pas José. » Par exemple, quand elle parla de recommencer à danser, ses parents s'effrayèrent. Mais elle se moqua d'eux gentiment en les assurant qu'elle avait tout son bon sens. La danse dans ce pays a quelque chose de sacré. Elle tient au sol lui-même. Elle est le sel de la race. Pendant toute cette guerre, les femmes ont continué de danser sur les places et dans les tavernes pour le délassement des maigres soldats aux espadrilles ensanglantées. Le projet de Pastora n'étonna personne. Le dimanche où elle revêtit la longue jupe à volant et le petit chat à la frange, où elle piqua des œillets dans ses cheveux et fit à coups de pouce ronfler son tambourin, les gens dans ce village andalou accoururent de tous les autres villages. Parmi les spectateurs se trouvaient des soldats de la garde civile et même un capitaine. Quoique celui-ci fût du parti des Républicains, ce sont ses compliments que la jeune fille accepta avec le plus de plaisir. Elle but même avec lui un verre de gazéosa. Et pendant que tout haut, il enviait le verre que touchaient les lèvres rouges. « Que devient le lieutenant Anton ?» lui demanda Pastora. Le capitaine était depuis peu de temps dans la région. Il en ignorait les familles et les drames. Par contre, il connaissait fort bien le lieutenant Anton, un brave. Puis-je savoir son adresse? Le capitaine la donna. Le lendemain, Pastora écrivit. Elle montra la lettre à ses parents stupéfaits. « Pour que vous ne vous étonniez pas de le voir revenir par ici, expliqua-t-elle, et que vous lui fassiez bon visage. » Dans cette lettre, très bien tournée, car elle était habile à cela comme à tout, la jeune fille commençait par se plaindre amèrement, aigrement de l'abandon de José. Pour moi, il est allé se battre avec ceux de la phalange. Mais j'ai trop attendu d'en avoir la certitude. Ma patience est finie. Je me rappelle, Anton, que je vous plaisais. Si je vous ai montré du dédain, c'est parce que j'avais peur. Mais je pense maintenant n'avoir plus rien à craindre. Qui sait, s'il veut revenir, quand il reviendra? Son silence Encore mieux que son absence me délie. Le père essaya de protester. La mère, elle, sans rien dire, considérait sa fille. Seigneur, j'ai pressenti tout de suite je ne sais quoi de terrible. Son idée, quelle était son idée? L'interroger là-dessus, je n'ai même pas essayé. Sans doute, lui avions-nous toujours obéi. Mais depuis son malheur, nous étions devant elle, par peur de la contrarier comme de pauvres moutons. La lettre partit donc et 15 jours après, le lieutenant reparut. Le fermier l'interrompit. « Femme, nous avons perdu le droit de l'accuser. Sans doute, qu'il soit en paix. » Donc, comme nous en avait supplié notre fille, nous fîmes bon visage à cet Anton qui jamais ne m'avait paru plus exécrable. Les airs de maître qu'autorisaient ce que Pastora lui avait écrit, son arrogante face ne se fit pas faute de les étaler. Devant nous, il prenait la petite par la taille et elle se laissait faire. Nous en mourions de honte, d'autant que celui-là ne parlait pas de mariage, et nous cherchions à comprendre. Anton aussi devait chercher à comprendre, quoique le jeu fût simple. Une fille vous attire et puis elle se dérobe, d'accord. Mais le plaisir de la coquetterie s'use, et la patience de l'homme aussi. À quoi voulait-elle arriver cette Pastora du diable? Anton essaya de venir plus souvent, et puis, pendant 2 semaines, de ne pas donner de ses nouvelles. Qu'elle l'eût vu la veille ou fût restée 15 jours sans le voir, elle l'accueillait toujours avec le même sourire. « Qu'est-ce qu'il y a donc dans ta tête ? » grondait-il en prenant cette petite tête à 2 mains comme pour la faire éclater. Il en vint à pousser d'horribles blasphèmes. Le père et la mère se signaient en cachette. Anton les vit cependant. La colère qu'il n'osait trop montrer à Pastora, il la tourna contre eux, et il les menaça, puisqu'ils n'étaient que des imbéciles, superstitieux comme cela n'est plus permis à notre époque de progrès, de les faire mettre en prison. Tu vas faire arrêter mes parents parce qu'ils prient, mais moi aussi je prie. De là mes hésitations et tout ce que tu ne peux arriver à comprendre en moi. J'en souffre autant que tu peux toi-même en souffrir, parce que je t'aime, et beaucoup plus que je n'ai aimé José. Oui, elle parvint à prononcer cela parce qu'il le fallait. Elle y parvint comme elle s'obligeait à supporter sur son mince cou la main assassine. Ne fallait-il pas que cet homme acceptât ce qu'elle devait lui dire? Elle avait bien perçu son soubresaut dès les premières paroles. Elle l'avait vu tout de suite se tendre sa mâchoire. Mais ce n'est pas de lui qu'elle avait peur. Elle avait peur seulement de ne pas réussir. Ah, Dieu! Ce qu'il lui a fallu prodiguer de grâce et de petites mines, et de ces longs regards qui vous affolent un homme. Je t'aime, mais tant que tu seras du parti des Rouges, je me refuserai à toi. Les convictions d'Anton n'étaient pas bien profondes. Il les invoqua toutefois avec indignation, menaça Pastora qui les 2 poings aux hanches, esquissa un pas de danse et jura qu'il ne la reverrait plus. Le lendemain, il était là, haletant comme un chien, l'œil creusé d'insomnie et de désir. Alors Pastora, quand « Monte en croupe derrière moi, je t'emmène à l'auberge. Je me laisserai emmener quand tu porteras la chemise noire où sont brodées les flèches. » Vainement, pour saisir son secret, il la regardait jusqu'au fond de ses grands yeux, qu'elle laissait pénétrer avec ingénuité. Peut-être se méfiait-il de ce marché, de cet amour. Ce brutal était en même temps rempli de prudence. Puisqu'elle mettait le don d'elle-même à un prix si haut, soit, il paierait. Mais il saurait s'arranger pour qu'elle payât également si la mauvaise chance et non la bonne était au bout du chemin. Cette pluie, est-ce celle qui tombe aujourd'hui sur mon jardin dévasté ou celle que j'entendais ruisseler ce soir-là sous la blanche et pourtant obscure cuisine espagnole? Je ne sais plus. Au-delà de son bruit, il semble que moi aussi maintenant, j'entends d'autres choses. Il semble... Non, protesta la mère, dont la voix venait de se perdre comme un filet d'eau dans les sables. Non, je trouverai la force. Il vaut mieux dire ça avec des mots de femme. Parce que, n'est-ce pas, continua-t-elle, le ton plus ferme et plus haut, il ne faut pas avoir l'air d'accuser la petite. Ce qu'elle a fait, c'était pour punir une canaille et pour venger son José. Les moyens ne comptent pas. Le but, seulement le but. J'ai deviné la première, quand elle laissait cet Anton tourner autour d'elle, et la première aussi, quand elle nous a annoncé « Je pars pour Carthagène. » Elle s'en est donc allée. De 8 jours, nous n'avons rien su d'elle. Et puis une lettre est arrivée. « On me fusille jeudi, mais pas seul. Et j'ai la permission de vous dire adieu. Alabado sea Dios, loué soit Dieu. Dans le train, nous pleurions tellement, tous les deux, que les gens nous prenaient en compassion. Nous sommes arrivés à la prison. C'était une église qu'on avait séparée en deux avec des grilles. Plus belle, plus rayonnante, je n'ai jamais vu ma pastora. Nous sommes allés dans un coin, elle, de l'autre côté des barreaux, comme quand le novio venait lui faire sa cour. Voilà cet Anton dégradé, déshonoré, et on l'abat demain, nous annonça-t-elle tout de suite. Et toi, fille de ma vie? Moi? Ah, c'est vrai, moi aussi, mais c'est sans importance. Aussi bien me serais-je tué, si Dieu ne le défendait, pour retrouver José. Hélas, hélas, sa vie était donnée d'avance. Quand Anton, toujours défiant, la prévint qu'il l'avait signalée comme suspecte. Ainsi, nul secours ne te reste, puisque tu m'obliges à fuir, que de fuir avec moi. Elle n'avait fait que rire. Le jour convenu, ils avaient revêtu leur déguisement de paysans et s'en étaient allés. Mais par les soins de Pastora, les miliciens avaient été alertés. Quatre hommes les arrêtèrent avant qu'ils n'eussent gagné la montagne. Maintenant, nous sommes seuls. Pas seul, puisqu'elle revient, chuchota le père, penché et prêtant l'oreille. Écoutez, écoutez. Et j'entendis encore ce bruit de soie froissée, de longs volants traînés, de petits pieds bondissants. Peut-être n'était-ce que la pluie. Peut-être. On ne sait pas. Ainsi s'achève La pluie aux pieds légers, par André Courtis.